Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, disons quelques mots sur le mystère de la Transfiguration pour préparer la belle fête de demain, qui est une des belles fêtes de nos mois d'été. Au moment de la Transfiguration, nous sommes à la troisième année du ministère public de notre Seigneur. Jésus est en Galilée, une région qui était demeurée presque impénétrable à sa prédication. Il fait ici la première annonce explicite de sa passion à ses apôtres. L'évangéliste saint Matthieu ne nous en livre pas les paroles exactes, il nous en donne la substance. Jésus, dit-il, commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des scribes et des princes et des prêtres, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Les apôtres sont profondément bouleversés par cette annonce. Comme la plupart des Juifs de cette époque, ils attendent un Messie temporel, glorieux, qui les délivrera du joug des Romains et qui leur fera dominer le monde entier. La croix est un scandale pour les Juifs, dira saint Paul. Alors saint Pierre, avec son tempérament fougueux habituel, prend notre Seigneur à part. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne vous arrivera pas. Ce à quoi notre Seigneur répond, « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tu n'as pas le sens des choses de Dieu, mais des choses humaines. » Nous pouvons être bien sûr surpris par la dureté des paroles de notre Seigneur, surtout qu'elles arrivent juste après que saint Pierre ait confessé que notre Seigneur était le Fils de Dieu et qu'en retour notre Seigneur lui ait annoncé qu'il deviendrait le chef de son Église. Oui, mais la croix, c'est ce pourquoi notre Seigneur était venu sur terre afin de sauver les hommes. C'est ce à quoi il aspirait depuis le premier instant de sa conception dans le sein de Notre-Dame au jour de l'Annonciation. Saint Paul, d'ailleurs, nous révélera la première pensée de notre Seigneur envers son Père au premier instant de sa conception. Vous n'avez pas voulu de sacrifice ni d'holocauste, mais vous m'avez formé un corps. Alors j'ai dit, voici, je viens au Père pour faire votre volonté, c'est-à-dire pour offrir ce corps en sacrifice pour le salut des hommes. Alors se mettre en travers de la croix, c'est détruire tout le plan de salut de notre Seigneur. Saint Jean Chrysostome dira que saint Pierre est excusable parce que c'est la première fois que ce mystère de la croix lui était révélé, il n'y avait pas encore eu la Pentecôte, donc nous pouvons bien comprendre sa réaction. Mais sachant que la passion serait une épreuve terrible pour ses apôtres, afin de les y préparer, afin de ranimer leur courage, il va montrer un rayon de sa gloire à trois d'entre eux, ces trois intimes, ceux qui d'ailleurs seront les témoins de son agonie au jardin des Oliviers le jeudi saint au soir. Saint Pierre, le chef de son futur chef de son Église. Saint Jacques le Majeur, qui sera le premier apôtre martyr. Saint Jean, que notre Seigneur aimait tout particulièrement en raison de sa virginité. Et il va les emmener sur le mont Tabor. Le mont Tabor n'a que 500 mètres de haut, mais comme il s'élève seul au milieu d'une plaine, la plaine d'Esdrelon, il donne l'impression d'une haute montagne. Son ascension demande environ 2 heures dans un paysage féerique, mais c'est en même temps une montée pénible qui semble ne finir jamais, surtout en plein été sous le soleil. Les trois apôtres vont être récompensés de leur fatigue par un spectacle extraordinaire dont ils vont être les témoins en arrivant au sommet. Jésus fut transfiguré devant eux, dit saint Matthieu, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Normalement, quand l'âme est dans la gloire, c'est-à-dire lorsqu'elle voit Dieu face à face, la gloire de l'âme rejaillit sur le corps qui devient tout lumineux, et c'est ce qui se passera pour nous à la résurrection générale. Notre Seigneur, ayant la vision béatifique depuis le premier instant de sa conception, voyait notre Seigneur face à face, son âme était dans la gloire. Mais comme il devait souffrir et mourir pour notre salut, il ne permettait pas que la gloire de son âme rejaillisse sur son corps n'était pas glorieux afin de pouvoir souffrir et mourir. Sur le Tabor, eh bien, il a laissé momentanément son âme transfigurer son corps. Et saint Thomas d'Aquin emploie une belle comparaison, il dit « C'est comme en un jour nuageux, lorsqu'un rayon de soleil perce quelques instants les nuages et éclaire tout le paysage. Et puis les nuages reviennent. » Et voici qu'apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec Jésus. Les pharisiens reprochaient à Jésus de transgresser la loi de Moïse et de se faire Dieu à la place du vrai Dieu. Alors Moïse, le grand législateur, Élie, le vengeur de la gloire divine, lui qui avait fait massacrer les prêtres de Baal sur le mont Carmel, Moïse et Élie viennent témoigner en faveur de notre Seigneur pour fortifier la foi des apôtres. Nous connaissons la suite, Saint-Pierre demandant à rester toujours sur la montagne, puis la voix de Dieu le Père confirmant la divinité de son Fils. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. » Il faudra ensuite redescendre la montagne, c'est-à-dire retourner dans le monde avec tous ses problèmes, nous en parlerons. Tâchons de tirer quelques leçons pour notre âme. Si nous découpons cet épisode en trois parties, avant, pendant et après la transfiguration, nous découvrirons trois aspects de notre vie chrétienne. Avant la transfiguration d'abord. Notre Seigneur avait annoncé à ses apôtres le mystère de la croix. Il leur avait révélé que le plan du salut passait par la croix. C'était dur pour un juif d'entendre cela. D'ailleurs, c'est dur pour nous aussi. Mais comme les paroles ne suffisent pas, parce que les paroles, ça peut rester très théorique et on ne peut ne pas en voir les conséquences, notre Seigneur, en bon pédagogue, passe aussitôt à l'action. Il fait faire à ses apôtres la dure ascension du Tabor, hein, leur faisant expérimenter par là, eh bien, un petit peu l'expérience de la croix et du sacrifice. En effet, si le Tabor représente le ciel, la dure montée du Tabor représente les efforts, les sacrifices qui sont nécessaires pour aller au ciel. C'est l'aspect que l'on dit ascétique de la vie spirituelle. Et cela est absolument nécessaire pour quatre raisons. D'abord, parce que notre nature est blessée par le péché originel, donc si nous la laissons aller, si nous ne la canalisons pas, nous serons submergés par les vices. D'autre part, si nous ne faisons pas pénitence pour nos péchés passés, pour essayer de déraciner les mauvaises tendances qu'ils ont mis dans notre âme, eh bien, ces mauvaises tendances ne cesseront de grandir comme les ronces dans le jardin, et nous commettrons des péchés encore plus graves, sans compter le long et douloureux purgatoire que nous nous préparerons jour après jour. D'autre part, nous vivons dans un monde païen et sensuel qui nous incite tous les jours à chercher la vie la plus confortable possible sur cette terre, à satisfaire continuellement et immédiatement nos sens. Si nous nous laissons trop attirer par ce monde, nous tomberons de plus en plus par la tiédeur et nous mettrons notre foi en grand danger. N'oublions pas si l'on ne vit pas comme on pense, on en vient avec le temps à penser comme on vit. Si l'on vit comme les païens d'aujourd'hui, nous deviendrons des païens. Voilà. Hélas, combien de catholiques aujourd'hui perdent la foi dans ce monde matérialiste? Nous connaissons tous des exemples, hélas. Donc, notre nature blessée, les dégâts causés à notre âme par nos péchés, les renoncements à faire pour ne pas nous laisser manger par le monde, ce sont trois motifs de mettre le sacrifice dans notre vie. Et il y en a encore un autre qui est important. Ce sont les âmes à sauver. Notre Mère du Ciel est venue nous rappeler à Fatima. Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et qui prie pour elles. 19 août 1917. Et chers parents, s'il y a des âmes qui ont besoin de vos sacrifices, ce sont bien les âmes de vos enfants. Ils se trouvent, ils vont se trouver dans un monde dangereux pour leur âme, dangereux pour leur salut éternel. Danger d'Internet, danger du portable, impureté partout, mauvaise musique, alcool, drogue, matérialisme ambiant. Ils vont se trouver dans tout cela s'ils partent en université, en faculté, dans n'importe quelle école de formation, et on est bien obligé, ils vont se trouver dans ce monde, dans ce milieu. Et ils ne persévéreront pas si, à l'exemple de votre vie, vous ne joignez pas vos prières et vos sacrifices. Quel sacrifice ! Eh bien, à notre époque, Notre-Dame de Fatima a donné un moyen extrêmement efficace et à la portée de tous. Écoutons sœur Lucie une fois de plus. Le plus important est l'offrande au cœur immaculé de Marie des sacrifices nécessités par vos devoirs quotidiens pour la conversion des pécheurs. Bien sûr, en unissant tout cela au sacrifice de notre Seigneur renouvelé à la messe et allant communier pour recevoir les forces d'avancer dans cette voie. En gravissant le Tabor, les apôtres découvraient un paysage de plus en plus beau qu'ils ne voyaient pas lorsqu'ils étaient encore dans la plaine. La beauté des montagnes d'alentour, les lointains du lac de Tibériade, et tout au loin, la Méditerranée avec son bleu magnifique. Si nous sommes généreux dans les sacrifices dont nous avons parlé, le monde et ses plaisirs nous paraîtront de plus en plus fades et sans intérêt. Disons-nous d'ailleurs que si le monde et ses plaisirs nous attirent encore, c'est que nous ne sommes pas encore très haut dans la montée de la montagne du Tabor. Donc le monde et ses plaisirs nous paraîtront de plus en plus fades et sans intérêt. Et une paix de plus en plus grande emplira notre âme, la paix du Christ que le monde ne peut donner. Avant de tirer quelques leçons de ce qui s'est passé sur le sommet du Tabor, cherchons la signification spirituelle de ce qui s'est passé après la transfiguration. En redescendant la montagne avec notre Seigneur pour rejoindre les autres apôtres, Pierre, Jacques et Jean se sont trouvés au milieu d'une foule agitée. On avait en effet amené aux disciples un enfant possédé du démon pour qu'il le délivre. Et les apôtres n'avaient pas réussi malgré leurs efforts. Alors la foule s'agitait et des scribes qui étaient là ne se gênaient pas pour apostropher les apôtres et les humilier devant tout le monde. Vous connaissez la suite. Notre Seigneur s'avança, majestueux, et il calma cette agitation en chassant le diable du corps de l'enfant. Et en disant à ses apôtres que s'ils n'avaient pas réussi à chasser ce démon, c'est parce qu'ils n'avaient pas employé les armes de la prière et du sacrifice, représentées par la dure montée du Tabor. Cette scène qui s'est produite à la descente du Tabor représente toutes les péripéties de la vie, les difficultés, les soucis, les épreuves de toutes sortes qui jalonnent toute vie. Il y en a toujours. Et que Dieu permet pour notre purification, comme le vigneron émonde sa vigne pour qu'elle porte davantage de fruits. Il est nécessaire que nous n'ayons pas toujours des consolations dans la prière et que nous souffrions parfois dans notre corps par la maladie. Sinon, nous aurions une conception trop intéressée de la vie chrétienne. Et la conséquence serait que nous fuirions l'effort et la croix, ce qui serait aller aux antipodes du salut. Il est nécessaire que nous rencontrions certaines humiliations, sinon l'orgueil nous possédera tout entier. Et l'orgueil, c'est le péché de Lucifer, le plus dangereux. Il est nécessaire que ce que nous voulons ne se réalise pas toujours, quelles que soient parfois nos bonnes intentions. Sinon, ce n'est plus la volonté de notre Seigneur qui deviendra notre idéal, mais les désirs de notre amour propre. Eh bien, tout cela, c'est ce qu'on appelle les purifications passives. Ainsi appelées parce que ce n'est pas nous qui les produisons par nos efforts, mais parce qu'elles nous arrivent par une permission de la Providence ou par l'action directe de Dieu pour notre bien. Parce que la Providence est infaillible, rien n'échappe au bon Dieu, et le bon Dieu est toujours un Père. Et c'est là que la scène de la Transfiguration nous est un grand secours, ce qui s'est passé au sommet du mont. Ce moment de paix et de consolation que les trois apôtres ont vécu au sommet du Tabor représente d'abord les consolations que notre Seigneur sait nous ménager dans la vie, pour nous permettre de reprendre de nouvelles forces sur la route du ciel. Retenons cependant ce que dit l'Imitation de Jésus-Christ. Dans la désolation, n'oublions pas la consolation qui suivra. On ne sera pas toujours dans la désolation. Et dans la consolation, n'oublions pas qu'une désolation s'en suivra aussi. Quand une épreuve, une difficulté est passée, ne pensons pas que maintenant il n'y en aura plus, enfin. Non, la vie sans croix, c'est pour le ciel, c'est pas pour la terre. Et quand nous sommes dans les soucis, les difficultés, les épreuves, pensons aux épreuves passées que notre Seigneur nous a bien fait traverser. Et nous sommes là aujourd'hui, elles sont finies ces épreuves passées. Alors il en fera de même aujourd'hui avec les épreuves présentes, si nous restons avec lui, bien sûr. Et puis, davantage encore que les consolations passagères que notre Seigneur nous ménage sur cette terre, le mont Tabor représente surtout le bonheur incomparable qui nous attend au terme de notre chemin de croix. Un bonheur sans comparaison avec tout ce que nous pouvons imaginer et même tout ce que nous aurons pu souffrir sur cette terre. Le moment si court et si léger des afflictions que nous souffrons en cette vie, dit saint Paul, produit en nous le poids éternel d'une souveraine et incomparable gloire. Et c'est cela, surtout, qui doit nous donner courage dans la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.